Bienvenue sur les chroniques de la Revue Française de Comptabilité. Avec la publication de son 600e numéro, la Revue Française de Comptabilité célèbre également ses 70 ans d'existence avec une édition spéciale. Aujourd'hui, nous vous proposons une chronique inspirée de l'article de Sana Moussaïd, expert comptable et commissaire aux comptes, sur l'univers fiscal des cryptoactifs. Oui, parce que, Bitcoin, NFT, tout ça, ce n'est plus juste un sujet pour initier. On les voit apparaître dans les bilans de plus en plus d'entreprises, et pas seulement les start-up. Et ça, ça interpelle directement la profession comptable. Tout à fait. Et le point de départ, vraiment, avant même de parler chiffres et fiscalité, c'est l'inventaire et la sécurité. C'est le socle. Il faut absolument savoir ce que l'entreprise détient. Quel crypto? Quel type de jeton? Des NFT? Et surtout, comment c'est stocké? Est-ce que c'est sur des cold wallets, hors ligne, ou des hot wallets, en ligne?
La différence est cruciale, j'imagine, pour la sécurité.
Exactement. Le stockage froid est bien plus sûr, mais moins pratique au quotidien. Le stockage chaud, lui, est plus simple d'accès, mais forcément plus exposé au risque de piratage.
Et cette histoire de clés privées, de seed phrases, c'est vraiment le nerf de la guerre, non? Si on perd ça?
Si on perd la clé privée, on perd l'accès aux actifs. C'est définitif. Il n'y a pas de mot de passe oublié. Donc, pour l'expert comptable, la question est: comment s'assurer que le client maîtrise vraiment ses accès? Alors, qu'est-ce qu'on demande concrètement?
Il faut exiger des preuves. Des preuves d'existence de ses actifs et des preuves de contrôle. Ça veut dire regarder les procédures internes de l'entreprise pour créer, autoriser, gérer les wallets. On doit demander un document d'inventaire très clair qui liste tout et vérifier les mesures de sécurité. Est-ce qu'il y a une double authentification, des sauvegardes, un plan B en cas de pépin? Un registre précis des wallets est aussi indispensable.
D'accord. Une fois qu'on sait ce qu'on a et que c'est sécurisé, on passe à la comptabilisation. Et là, ça a l'air assez diversifié comme opération. Achat, vente, ok. Mais il y a aussi le trading entre crypto, le minage, le staking.
Oui, et le lending, le borrowing, les pools de liquidités dans la finance décentralisée, la DeFi, sans oublier l'achat ou même l'émission de NFT. C'est un univers très riche en types de flux.
Comment on s'y retrouve pour traiter tout ça, Eve ?
La clé, c'est de qualifier précisément chaque opération. Il faut décortiquer les historiques de transactions. Souvent, on récupère des fichiers CSV des plateformes d'échange. Mais parfois, il faut aller chercher l'info directement sur la blockchain, les données on-chain. Heureusement, il commence à y avoir des outils logiciels spécialisés pour aider, parce que ça peut être très lourd manuellement.
Et cette qualification, elle détermine quoi exactement ? Elle détermine le traitement comptable. Est-ce qu'on est sur une crypto-monnaie classique, un jeton utilitaire, un NFT, un security token, selon la nature et l'intention de détention, spéculation ou usage durable, on va utiliser des comptes spécifiques. Le règlement ANC 2020-05 a d'ailleurs introduit des comptes dédiés en trésorerie, comme le 522 jeton détenu. Mais si l'utilisation est prévue sur le long terme, ça pourrait même être une immobilisation incorporelle.
Intéressant. Et pour la clôture des comptes, comment on gère la volatilité de ces actifs pour l'évaluation?
Alors, à la date de clôture, la règle, c'est la valeur de marché. On prend une source fiable, publique, comme CoinMarketCap par exemple, et cette évaluation va faire apparaître des plus ou moins values latentes.
Latentes? Donc non encore réalisées.
Exactement. On les constate dans des comptes spécifiques, les 47 862 et 47 872. C'est seulement quand il y a une cession, une vente effective, que la plus ou moins value est réalisée. Et là, elle est enregistrée en résultat financier. D'ailleurs, attention, les comptes à utiliser vont changer au 1er janvier 2025. On passera aux comptes 67-74 et 66-74.
D'accord. Et il y a aussi un choix de méthode pour calculer cette plus-value, c'est ça? FIFO ou CUMP?
Oui. Première entrée, première sortie, le FIFO, ou coût unitaire moyen pondéré, le CUMP. L'entreprise doit choisir une méthode et s'y tenir. Surtout, elle doit pouvoir justifier son calcul. La traçabilité est absolument essentielle, notamment pour le fisc.
On sent que l'environnement réglementaire est aussi un gros morceau.
Ah oui, c'est dense, hein. Il y a le statut de PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, pour certaines activités. Le règlement européen MiCA, qui arrive pour harmoniser tout ça. Et bien sûr, la LCB FT, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Ce qui implique plus de vigilance, hein ?
Beaucoup plus. Sur l'origine des fonds, sur l'identification des clients, le fameux KYC, Know Your Customer. Il faut aussi penser à la déclaration des comptes détenus à l'étranger, via le formulaire 3916 bis. Et il y a le régime fiscal spécifique des plus-values pour les particuliers. Bref, c'est